Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Nous rendons visite aujourd'hui à la revue Far West, visite de courtoisie normale. Pas vraiment, plutôt paranormal, car l'article du jour s'appelle « Chasse aux fantômes dans le Bordelais » et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Vincent Bresson.
Bonjour.
Vincent, l'une des héroïnes de votre papier s'appelle Laetitia Duvinière-Billon. Côté pile, elle exerce un métier que l'on pourrait qualifier de classique. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Oui, alors Laetitia, elle a 44 ans, elle a deux enfants, un enfant de 15 ans, un enfant de 19 ans. Elle est responsable facturation pour un grossiste près de Bordeaux. Donc pour la décrire, je dirais qu'elle a une certaine bonhomie. Quand je l'ai interrogée, ça s'est senti tout de suite qu'elle avait le lien social assez facile et ça rend les choses de toute façon plus faciles pour un journaliste. Et je dirais que ce qui la caractérise encore plus, c'est son hyperactivité. Elle s'arrête jamais, ça se voit, ça se sent dans la manière dont elle parle et elle travaille. De toute façon, elle m'avait confié qu'elle travaillait entre 50 et 70 heures par semaine.
Alors côté face, Laetitia a une activité, elle aussi rémunérée, beaucoup moins courante. Elle est donc, ou c'est en tout cas ce qu'elle dit, chasseuse de fantômes. En quoi ça consiste exactement ?
Oui, parce que les 50 heures et 70 heures de travail qu'elle insinuait, c'était aussi avec ce deuxième travail un peu, puisqu'il est, il est rémunéré. Pour être chasseur de fantômes et pour aller chasser le fantôme, il faut d'abord qu'elle ait connaissance d'une maison, d'un lieu qui soit hanté. Et pour ça, il faut qu'elle soit contactée. Elle a un site internet, elle a la tête d'une association paranormale dans l'Aquitaine. Et il y a aussi le bouche à oreille, elle est assez connue. Notamment, elle m'a raconté que plusieurs prêtres savent qu'elle exerce et qu'ils n'hésitent pas à la contacter quand ils doivent faire de l'exorcisme. Parce que dans l'église, c'est encore une pratique active et importante. Et en gros, elle m'expliquait que c'était toujours un peu la même démarche, que les gens entendent des bruits dans leur maison, ils ont l'impression que des objets sont déplacés. Puis après, ça crée des disputes, ça crée une tension, une mauvaise atmosphère entre eux. Et ils finissent par faire appel à elle parce qu'ils commencent à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que c'est probablement des esprits malsains. Et on en vient à Laetitia. Elle fait des recherches après, elle, de son côté, sur l'histoire de la maison, du quartier, de la ville, du village. Parce qu'elle explique que ça se prépare en fait, une chasse aux fantômes, ça ne s'improvise pas comme ça. Il faut qu'elle connaisse l'histoire du fantôme, et du coup, pour connaître l'histoire du fantôme, il faut qu'elle connaisse l'histoire du lieu. Et après, là, l'étape suivante, c'est d'aller sur les lieux quand elle a suffisamment d'informations, et elle trouve généralement, en tout cas c'est ce qu'elle raconte, tout de suite ce qui cloche, ce qui va pas, elle arrive à comprendre quelle entité vient hanter les lieux, ou viendrait plutôt, en tout cas selon ses propos. Là, j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur la méthode, mais elle me l'a pas dite, parce que c'est un sorte de secret professionnel, mais en gros, elle s'enferme dans le lieu qui est hanté, et elle fait ses petites affaires, elle s'occupe du fantôme à sa façon, et ça m'a laissé c'est un peu sur ma faim d'ailleurs, parce qu'elle m'a laissé vraiment aucun indice là-dessus.
Oui, parce qu'elle dit donc avoir le don de voir les fantômes que d'autres peuvent ressentir. Quand on a l'impression qu'une maison est hantée, elle dit qu'elle les voit. À quoi ils ressemblent, ces fantômes qu'elle dit voir ?
Bah, ça dépend, parce qu'ils sont coincés dans notre monde à nous, pour deux raisons, en tout cas. D'après ses propos, soit ils cherchent à se venger, soit ils n'ont pas eu le temps de faire ou de dire quelque chose à un proche, et du coup, ils ont à leur mort, ils sont restés bloqués, en fait, coincés dans notre monde à nous. Et ils sont donc physiquement, en tout cas, elle les voit physiquement comme ils étaient à leur mort. Donc ça peut être dans un état de forme assez différent, ça peut même être assez glauque. s'ils sont pas morts de leur belle mort. Elle m'a raconté notamment qu'une fois elle avait vu un gamin avec la moitié du crâne enfoncé, et que même elle qui explique avoir l'habitude de voir des fantômes depuis très longtemps et des choses affreuses, ça l'avait quand même malgré tout dégoûté.
Et donc Laetitia explique qu'elle est là pour les aider, ces fantômes, c'est bien ça ?
Oui, oui, si on l'écoute, elle rendrait service, puisqu'en fait le fait d'être coincé, c'est une souffrance pour les éventuels fantômes, parce qu'ils sont ils ressentent exactement la même douleur qu'ils ont eu à leur mort. Donc s'ils sont morts de manière un peu sale, un peu crade, ça doit être une énorme souffrance. Donc vaut mieux, pour devenir un fantôme, vaut mieux mourir dans sa belle mort. Et en plus, pour elle, c'est encore plus compliqué de faire ça, de venir les aider, qu'ils sont coincés depuis longtemps. Plus ils sont coincés depuis longtemps, plus elle aura du mal à exorciser, plus ça va être compliqué. La bataille qu'elle mène avec le fantôme et dont elle m'a pas révélé la méthode.
Retenir ce conseil pour devenir un fantôme serein, mieux vaut mourir de sa belle mort. Parmi les éléments étonnants de votre papier qui n'en manque pas, on apprend que Laetitia est la 6e génération d'exorcistes de sa famille. Est-ce qu'elle vous a parlé de la transmission, de la manière dont on lui a présenté les choses quand elle était petite ou jeune fille ?
Bah, là aussi, c'est un secret professionnel, elle m'en a pas parlé malheureusement. La seule chose que je sais, c'est qu'elle m'a dit évidemment que c'était transmis de génération en génération, qu'elle voudrait bien le transmettre un jour à ses enfants, mais qui sont encore un peu trop jeunes, elle sait pas encore s'ils ont aussi une appétence, et surtout elle m'explique que c'est très énergivore, donc là, eux, ils sont un peu jeunes, et elle qui a beaucoup d'énergie, pour elle, en tout cas, il n'y a pas de problème, visiblement.
Est-ce qu'elle a eu le sentiment, sur le même sujet, d'avoir le choix d'être à son tour chasseuse de fantômes, ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'elle a été plus ou moins contrainte de faire par son histoire familiale ?
Je pense qu'elle doit avoir le sentiment de devoir perpétuer une tradition, puisque c'est quand même la 6e génération, que je pense qu'elle a entendu beaucoup d'histoires sur ces sujets-là quand elle était jeune, donc il y a aussi une certaine forme de devoir, mais en même temps elle est très imprégnée par ce qu'elle fait, elle a vraiment l'impression de rendre un service aux gens, parce que ce sont des gens qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils sont en souffrance, ils ont l'impression que c'est hanté en tout cas, et ils ont les portes qui claquent, ils finissent même, d'après ses propos, par, à force que ce soit hanté, à être très énervé l'un avec l'autre, ça crée des problèmes de couple, ça crée des conflits, et elle vient un peu apaiser tout ça, et c'est un peu ce qui l'anime au final d'aider, donc c'est pas du tout une contrainte, je pense, ça semble même en osmose avec son tempérament qui est hyperactif, donc ça l'occupe.
On pourrait imaginer que le fait de voir ou d'avoir le sentiment de voir des fantômes soit un don, elle le ressent comme ça ou c'est plutôt une charge pour elle ?
Non, comme je disais, c'est vraiment le fait d'aider, de venir en aide, il y a ce côté aussi héritage, et en même temps c'est pas trop contraignant comme charge puisqu'elle adore ça, donc c'est pas vraiment vu comme une charge.
On a évoqué tout à l'heure l'aspect financier, elle se fait rémunérer combien ? Vous avez une idée du prix qu'elle prend ?
Alors non, elle m'a pas dit le prix. Elle m'a dit en gros que c'était bien moins cher que ce que certains autres exorcistes faisaient, que elle, de toute façon, c'était pas l'appât du gain qui l'intéressait, et que si vraiment les gens avaient des problèmes pour régler la somme qu'elle demande habituellement, ça pouvait s'arranger. Après, voilà, elle attend aussi une certaine contribution d'une certaine façon, puisqu'elle elle le fait en toute la France. Elle vient de l'Aquitaine, mais elle ne se restreint pas à l'Aquitaine. Elle peut aller un peu partout en France, et donc forcément, elle prend sur ses week-ends, sur ses jours fériés, donc ça prend à la fois du temps, ça lui demande d'y aller en voiture, donc que ça lui demande certains coûts. Donc à chaque fois quand même, elle a à cœur de rentrer dans ses frais, et ce qui est bien normal. Mais d'après ses propos, elle fait pas ça à un prix excessif. Et en tout cas, c'est pas à ce que j'ai entendu avec ses, à force de discuter avec elle, j'ai pas eu l'impression que c'était l'appât du gain qui l'a guidée en tout cas.
Dis-moi à quoi ça sert de me souvenir de toi, de ta peau, de ta chair qui envolait en éclats. Dis-moi à quoi ça sert d'être encore avec toi, ta photo sur l'étagère qui me parle de toi. Mon nom, mon beau fantôme, que puis-je encore faire pour toi? Mon nom, mon beau fantôme, s'il te plaît, réponds-moi.
Vincent, un autre personnage apparaît dans votre article, il s'appelle Guillaume Durieux. Alors lui, il est paradoxal parce qu'il se présente également comme chasseur de fantômes, mais il paraît assez peu convaincu de leur existence.
Oui, en fait, Guillaume, c'est un youtubeur très célèbre, il a des centaines de milliers de followers. Et au début, lui, il m'expliquait que quand il était jeune, et puis même encore récemment, c'est un grand consommateur de type de vidéos de chasseurs de fantômes. C'est même un peu un genre à part entière, surtout aux États-Unis, il y a des émissions consacrées là-dessus. Et lui, il adore les regarder. Et il était gamer sur le jeu Minecraft sur YouTube. Ça a commencé à le lasser de faire toujours des vidéos sur le même jeu, il voulait un peu se challenger, il s'est mis à chasser le fantôme comme ça un peu sur un coup de tête pour essayer aussi de redonner du peps à son travail de youtubeur. C'est vrai qu'effectivement ça paraît un peu paradoxal puisqu'il n'est pas convaincu de leur existence, il est un peu déçu, mais il y a un moment, il m'explique quand même que quand il s'est lancé, il avait envie d'y croire et qu'il... Il y croyait presque, mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à force de creuser. Il est même allé au début jusqu'à, je crois que c'était 2014-2015, jusqu'à bidonner une de ses vidéos, ce qui lui a fait un mauvais buzz, puisque bah, effectivement, il n'était plus très crédible en tant que chasseur de fantômes, puisque ça s'est vu qu'il avait bidonné. Ça a été un peu une expérience traumatisante, il s'est mis à arrêter de faire des vidéos, et puis en fait, il est revenu sur cette chasse aux fantômes avec un côté plus rationaliste, en fait, il s'est mis à la zététique, en fait, c'est une méthode pour faire la différence entre ce qui appartient à la science et ce qui relève de la croyance, et qui repose sur un discours très rationnel, et ça lui a permis de se renouveler dans son genre, la chasse aux fantômes, et aussi de se questionner sur cette existence-là encore plus fort, et depuis, vraiment, il est persuadé, assez persuadé que ça n'existe pas, les doutes de départ sont chassés, et lui, il s'astreint à une méthode assez rigoureuse.
Et pourtant, il continue de traiter du paranormal sur sa chaîne YouTube.
Bah alors, il continue parce que c'est intéressant, il a envie d'y croire, et puis on sait jamais, c'est pas parce que rien ne lui a prouvé pour l'instant que les fantômes existent, que ça sera pas le cas pour sa prochaine expérience. Ce qu'il fait souvent, c'est qu'il va dans des châteaux abandonnés, dits hantés, il y va avec ses caméras, il y va avec plein d'outils, et il challenge le truc, il a envie vraiment de trouver. Donc c'est pas parce qu'il y croit pas vraiment que ça le motive pas à continuer à faire du paranormal, puis il voit que ça plaît aussi, donc vu que c'est son gagne-pain, c'est normal aussi de continuer là-dessus, puisqu'il a un sacré succès, et je pense aussi qu'il est très marqué par sa jeunesse, hein. Il m'a expliqué que pendant sa jeunesse, il avait l'impression d'avoir eu des expériences troublantes, qu'il a toujours pas réussi à expliquer. C'est une certaine façon, une manière de trouver une explication, qu'elle soit rationnelle ou paranormale, mais pour l'instant, plutôt rationnelle à chaque fois.
« Vincent, deux questions un peu plus personnelles pour terminer. Quelle impression avez-vous eue en rencontrant Guillaume et surtout Laetitia ? Est-ce que Laetitia vous a paru sincère dans sa démarche ?
Ce qui était agréable, c'est que Laetitia, elle était, j'avais l'impression qu'elle était très sincère, qu'elle aide vraiment les gens. Et ça, c'est important parce que sur un sujet qui paraît farfelu, en tout cas à première vue, c'est hyper important d'avoir une personne en face qui y croit, qui a vraiment l'impression d'apporter quelque chose aux autres. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait aussi plusieurs façons de chasser le fantôme. Il y avait la façon de Laetitia, donc, qui croit dur comme fer, ce qui n'empêche pas des fois d'ailleurs d'appliquer des... C'était un raisonnement, des méthodes, parce qu'elle chasse aussi avec une association qui s'appelle Aquitaine Paranormal Investigation. Et avec cette association, elle a un peu la même démarche des fois que Guillaume, elle challenge le truc, mais avec ce biais qui est le fait qu'elle y croit, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc toutes les choses bizarres viendront un peu lui apporter de l'eau à son moulin. Et il y en a d'autres, un peu comme Guillaume, qui ont une position de curieux. C'est pas parce que rien ne prouve à l'heure actuelle que ça puisse rationnellement... exister, que en fait on peut pas avoir une démarche rigoureuse, qu'on peut pas se questionner, qu'on peut pas essayer d'y voir clair. Donc je trouve ça aussi très attachant. Enfin, l'un et l'autre sont très attachants parce que chacun à leur façon, finalement, cette chasse aux fantômes est devenue leur passion, et je trouve ça génial d'avoir des gens aussi passionnés dans un monde où la science a la réponse à tout. C'est bien d'avoir aussi des passions un peu folles comme chasser le fantôme. Ça vient un peu challenger aussi nos convictions, notre rationalité, et j'ai passé un super moment à faire ce reportage.
Vincent, quand on est journaliste, on s'interroge forcément sur le sens du sujet que l'on va traiter, sur l'exposition des personnes aussi dont on va parler. Comment vous avez géré cela finalement ? Est-ce que vous vous êtes posé des questions sur le fait peut-être de donner une exposition à des gens qui pourraient être dans une démarche pas forcément sincère ?
Je pense qu'il faut prendre ce genre de sujet avec des pincettes. L'habitude de le traiter pour Far West, je fais déjà à côté une série sur les gens qui sont passionnés d'ovnis et qui aussi chassent les ovnis. Et pour traiter bien ce sujet en tant que journaliste, je pense qu'il faut prendre un peu la distance et surtout éviter le... Il y a deux écueils à éviter, c'est de trop donner confiance sans mettre en perspective ses propos et de donner qu'une parole. Ceux qui croient en des théories qui peuvent paraître farfelues. Et en même temps, il y a l'inverse aussi, c'est qu'il faut éviter d'être très moqueur. Le problème de ces passions-là, comme la chasse aux fantômes ou la chasse aux ovnis, c'est qu'on vient souvent on arrive très facilement, parce que c'est plaisant dans l'écriture, à se moquer un peu d'eux. Sauf que ils ont leur schéma de pensée, mais il n'est pas plus ridicule qu'un autre, et ça serait un peu facile de se moquer. Et ces gens-là, on sent qu'aussi souvent se méfient des journalistes. Bon, là, sur Laetitia, je suis quand même très très bien tombé puisqu'elle est très bavarde, mais sur le sujet des ovnis, ça m'est arrivé de tomber sur des gens très méfiants, vraiment qui avaient l'impression que je venais directement me moquer d'eux, alors que c'est plus un intérêt, une très grande curiosité. Et je pense qu'ils ont tout à fait le droit, et en tout cas le devoir d'un journaliste, c'est aussi de représenter ces gens-là, puisque accumuler, si on met côte à côte les chasseurs de fantômes, les chasseurs d'ovnis, les gens qui croient en l'astrologie, du coup on se retrouve avec une proportion de la population qui est assez énorme. C'est le quotidien de beaucoup de gens, c'est des valeurs, des convictions que beaucoup de gens ont en eux et qui vivent au quotidien. Et je pense qu'il faut le respecter, et que le devoir du journaliste, c'est aussi de rendre compte de tout ça.
Merci beaucoup, Vincent Bresson, d'être venu au micro de Podcasting. Je rappelle le titre de votre article, paru sur le site de la revue Far West, Chasse aux fantômes dans le Bordelais. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Leuil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.